Interventions très intéressantes qui ont vraiment toutes, alors même que vous n'êtes pas sociologue ou historien ou en sciences sociales, ont insisté sur la manière dont les formes et les contenus internes vont dépasser la question des enjeux esthétiques ou y contribuer, mais aussi pour aller vers des enjeux politiques, philosophiques, sociologiques, identitaires, existentiels. Donc je vais passer la parole à la salle s'il y a des questions. Il y en a plein.
Oui, merci de toutes ces interventions absolument passionnantes. Je crois qu'on ne peut pas aborder toutefois le rap sans un croisement de points de vue, ce qu'on avait essayé de faire par exemple à Marseille dès 1999 quand on avait publié ce livre « Paroles et musique à Marseille » où on avait essayé de cerner les aspects linguistiques et musicaux qui se produisait dans le rap marseillais et dans les productions du Ragamuffin aussi, Massia Sound System. Ma question, en fait, déborde ce cadre-là. Elle s'adresse à tous les intervenants, principalement peut-être aux trois premiers, car il y a toujours une ambiguïté dans les textes prononcés par des rappeurs. L'ambiguïté, c'est la situation du rappeur en tant qu'être réel. Est-ce que c'est l'être réel qui parle ou un personnage ? Et là, j'aimerais avoir votre point de vue parce que c'est une catégorie extrêmement importante dans les musiques populaires qui a été notamment théorisée par Philippe Ostlander, hein, la question de la personne et la différence entre persona, personnage et être réel. Est-ce que finalement, par exemple, pour Tupac, il n'y a pas une posture théâtrale qui prend la place de l'être réel qu'il était. Et c'est la question qu'on peut poser pour tous les rappeurs.
Merci. Emmanuel, on prend trois questions ?
Oui, une question pour Marine. Déjà, te remercier d'avoir ce regard et cette perspective qui permettent de faire voir des choses qu'à mon avis, on n'atteindrait pas autrement. Enfin, en tout cas, là, ça nous fait voir des choses qu'on ne verrait pas autrement. Et parmi les choses que ça fait voir, il me semble qu'il y a quelque chose comme le fait que la petite fabrique d'un égo trip, alors je vais peut-être vite en disant ça, mais peu importe, c'est exactement l'endroit qui nous permet de faire tomber le fantasme romantique de l'intériorité créatrice. Et j'aimerais bien que du coup tu reviennes sur la partie que tu n'as pas développée là, c'est-à-dire la partie du corps. J'ai pensé en t'écoutant au travail d'Anne-Sophie Ringer sur les compteurs qui montrent comment le travail des compteurs qui apprennent ensemble à compter fait tomber le fantasme du langage privé. Ça, c'est la version bouvresse de Wittgenstein. Et je me suis dit que qu'observant le corps, les gestes, les postures du rappeur que tu observes, il y avait quelque chose comme faire tomber le fantasme d'un corps privé cette fois. Et j'avais l'impression que quand tu disais intériorité, en fait c'était une intériorité qui se fabriquait dans ce que tu observais. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une intériorité qui était un point de départ, mais qu'il y avait une intériorité, je trouvais que dans la chanson elle-même, il y avait quelque chose comme cette intériorité, on la construit en acceptant qu'en fait il n'y a pas d'intériorité. C'est-à-dire que le corps il n'est pas privé, totalement privé en tout cas, et que il y a cette intériorité, notamment en écrivant, on la construit. Hein, et que donc c'est dans l'autre sens. Il n'y a pas une intériorité à partir de laquelle on fait, mais que c'est en faisant, en créant, qu'on crée cette intériorité.
Peace. Thank you, everybody. This question is mostly for Jeremy. And first of all, Cowboy and Scott LaRock and Big Al and Biggie and Tupac are still alive. They all live on an all-inclusive resort, and the drinks are always free. And when we all die, we go into hip-hop heaven. but I also want to think about, Tupac's books have always been an important part of our understanding of Tupac. And Tupac's contradictions have always been part of our understanding of Tupac. And I'm wondering, the way you described it, as much as I understood, and it's nice to hear a Quebec accent again, but it's a kind of a strategic use of knowledge in a certain way. Like, and by having more book knowledge, more general knowledge, he has more opportunities and options to exploit that, that knowledge strategically. But it makes me think of another philosophical framework, which is Native Americans. And within that knowledge and contradiction, I start thinking about the coyote figure, or in Jamaica, the Anansi kind of spider figure. And there are other philosophical frameworks that actually accommodate Tupac's flexibility and knowledge in really interesting ways as well. So I just sort of put that out there as thinking about different philosophical frameworks within which Tupac could be really meaningfully understood.
Oui, donc, premièrement, pour la question du réel, vous mettez, en tout cas pour moi, vous mettez le doigt sur la question essentielle. C'est la question, particulièrement dans une optique West Coast, en commençant avec NWA. Il y a eu le film il y a deux ans, là, puis on voit Eazy-E qui ne s'est pas rappé parce que ce n'est pas lui qui a écrit son texte, c'est Ice Cube qui l'a écrit, puis tout ça. Et puis donc, toute la question du réel chez NWA est particulièrement intéressante parce qu'il n'y en a pratiquement aucun qui est vraiment gangster. Ils sont des garçons de, pour le dire grossièrement, là, mais ce sont des garçons de bonne famille, là, les gars d'NWA. Donc, dans leur cas, effectivement, je pense qu'on a affaire à des personnages, fondamentalement. Par contre, il y a possibilité, particulièrement par rapport à Tupac et aussi Biggie, je pense. Bon, Biggie, il est ailleurs, il est dans l'hédonisme, il est dans... Je sors de prison, puis là, je mène une vie droite, là, c'est un peu ça, une vie droite, ou en tout cas, dérangez-moi pas, sur Ready to Die, c'est beaucoup ça. J'ai l'impression que Tupac et Biggie se sont fait prendre au jeu, en quelque sorte. C'est-à-dire, le réel revendiqué, qui était narratif, certainement, a pris le dessus. Puis là, je pense particulièrement au dernier album, le premier album posthume de Tupac, j'ai envie de dire Machiavelli, de Don Culluminati's Seven Day Theory, où là, on sent la paranoïa, carrément, prendre le dessus sur lui. On écoute l'album, puis l'album est de part... Puis là, bon, c'est l'album qu'il est sur une croix, là, sur la couverture. Et puis, il a l'impression que le réel est trop. Le réel s'impose sur lui. Et puis, il ne peut plus jouer le personnage. C'est trop réel pour continuer à jouer le personnage. Et puis, bon, évidemment, le plus réel dans tout ça, malgré ce qu'on vient de dire, effectivement, on va les retrouver en haut, mais le plus réel dans tout ça, c'est qu'ils en sont morts. Donc, la réalité les a rattrapés. Et donc, il y a comme une espèce de... ça a périclité à un certain moment, j'ai l'impression, pour le pire, tout simplement. Et c'est ce qui est malheureux dans le gangster rap, en général, c'est-à-dire cette notion de représenter ce qui se passe réellement dans la rue, finalement, ça s'est devenu hypostasié. Puis là, pour être réel, il fallait être violent. On se fait prendre au jeu. Donc, oui, on commence dans une posture narrative, mais finalement, le réel est plus fort que nous. J'ai l'impression. Ça serait ma réponse. As to your question, I think, of course, there are multiple ways you can interpret all of these guys. You can take it all sorts of ways. And particularly pertaining to Native American stuff, I had something about signifying about a Native Canadian artist called Kent Monkman, who's very interested in signifying and says he is signifying. He'll take a famous Canadian painting by Emily Carr, that's mountains basically with snow on top. And you'll see it from far and be like, oh, that's an Emily Carr painting, important Canadian painter, and you'll come closer. And then you get closer and it's like dick, fist fuck, and also, that it's like written into the mountain. So he's dragging you in and then he's kicking you in the balls. That's his basic expression. So the signifying sort of angle that you can take, which can... plug into your question. That you can sort of say, well, he was saying it, but he wasn't meaning it, so we can take it elsewhere, is a possible avenue of interpretation. Of course, what I'm putting forward is what I think people are forgetting is what he was actually saying his name was. We should actually just take a look at it and not set it aside as quickly as a lot of people have done.
Merci beaucoup pour les questions. Donc, je vais faire comme toi, Jérémy, je réponds d'abord.
Excusez-moi, il y a des gens qui ne parlent peut-être pas anglais, qui ne vont peut-être pas comprendre la réponse, ni l'intervention de Murray. Oui, est-ce qu'il y a moyen, parce que moi, je n'ai pas assez suivi, est-ce qu'il y a moyen d'expliquer, de traduire ce qu'a dit Murray par rapport à Tupac?
Oui.
et ce que tu viens de dire.
Pas de problème. Donc, il me posait la question, à savoir, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres avenues, c'est-à-dire des cadres théoriques, philosophiques, pour interpréter la pensée de Tupac ou de n'importe quel autre rappeur, finalement. Et ce que j'ai répondu, c'est, il référait plus spécifiquement à des pensées autochtones, américaines, nord-américaines. Et donc, ce que j'ai répondu, c'est que oui, tout à fait, il y a toutes sortes de façons, toutes sortes de philosophies qu'on peut trouver dans les textes des rappeurs, bien entendu. Et je référais à un artiste visuel canadien, autochtone, qui s'appelle Kent Monkman, qui attire le regard des gens par des peintures très célèbres dans l'histoire de l'art canadien. Et les gens vont s'approcher. Ils vont se rendre compte finalement qu'il y a des messages qui sont du genre fist fuck, etc., qui veulent provoquer. Donc, ils nous attirent par quelque chose de classique et finalement. Et puis, donc, on pourrait prendre cet angle-là pour interpréter Tupac. Il revendique Machiavel, mais finalement, il est en train de dire autre chose. Tout à fait. Puis, cet angle-là, je pense, est complémentaire à l'angle que je présente. Et toutes sortes d'autres angles aussi. Ce sont des personnages multiples, bien entendu. Mais je concluais en disant que il revendique Machiavel, c'est quelque chose qui est évacué, en tout cas, dans tout ce que j'ai lu à peu près. Là, je vais peut-être trouver quelqu'un là qui j'ai rien trouvé là-dessus, qui juste dire il revendique, donc peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faudrait fouiller un minimum par rapport à ça. Voilà.
Ok. Alors, du coup, j'en ai perdu le fil de ma propre pensée. Non. pour l'ambiguïté dans les textes, la question entre l'être réel ou l'être personnage. Enfin, je suis d'accord que c'est une question essentielle, mais en même temps tellement complexe. Et j'ai envie de répondre en bonne universaliste que ça concerne un peu tout un chacun, surtout si on est goffmanien. Enfin, dans la mesure où on commence à prendre la parole, est-ce que c'est vraiment nous qui parlons ? Donc je pense que ça peut être une question qui est propre à tout discours et qui est une question importante. Ça rejoint aussi la question de la narration qui permet de constituer le self. Je pense que c'est une question qui se pose pour tout un chacun, enfin toute chose qu'on observe. Là, on en fait beaucoup des... Enfin, ça me fait penser, du point de vue phénoménologique, à un article d'Étienne Babenet qui s'appelle « Merleau-Ponty au seuil des sciences humaines ». Et il montre un peu qu'en fait, que ça soit du côté de Bourdieu ou du côté de Boltanski ou de Latour, tout le monde se revendique à un moment donné de Merleau-Ponty. Mais en fait, chacun ne prend vraiment la mesure de ce qu'est la première personne chez Merleau-Ponty et le vrai retour à l'expérience, c'est-à-dire de parler en tant que soi et donc d'assumer ses propres concepts comme étant des concepts qui viennent de soi en tant que première personne qu'il analyse. Et il finit son texte en disant « La leçon du retour à l'expérience de Merleau-Ponty nous fait nous demander en fait finalement, enfin je paraphrase parce que je suis un peu sans filet là, mais en gros il nous dit « et est-ce que vous, linguiste, psychologue, sociologue, est-ce bien vous qui parlez ?» Et il leur pose cette question sur le fait d'assumer les concepts en première personne, en tant que voilà, en ayant une propre perspective. Et donc, je pense que c'est même une question qu'on pourrait se donner à nous-mêmes, est-ce qu'on est des personnages académiques ou non ? Enfin, je botte un peu en touche, mais c'est un peu comme ça que j'ai envie de répondre. Pour la question de François, les choses que ça fait voir et le travail que j'ai fait sur le corps à partir de la vidéo. Oui, en effet, il y a totalement un côté de perte du côté. Enfin, mais bon, c'est quelque chose que la sociologie a beaucoup montré, du fait que quand on est tout seul, même quand on est tout seul, finalement, l'autre est toujours là. Alors évidemment, il se filme pour moi. Enfin, j'ai fait vraiment une analyse très détaillée qui essaye de décortiquer ces éléments. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans la vidéo, il adopte deux comportements un peu prototypiques, qui est celui de l'auditeur de rap dont j'ai parlé. Donc quand il se relie, il bouge la tête comme s'il était en train de s'écouter. Donc il est vraiment en train de prendre une posture collective alors qu'il est tout seul. Donc il a ce côté d'anticipation, enfin il prend vraiment quasiment charnellement la posture de l'auditeur. Et il y a la partie où en fait quand il rappe, il y a son rapport un peu incorporé à la musique qui s'exprime, c'est-à-dire qu'il fait des essais de scansion au fur et à mesure qu'il écrit, et il bouge, et ça j'ai fait un travail avec des comparaisons de capture d'écran, il bouge exactement de la même manière que quand il est sur scène, mais exactement, sauf que c'est un peu plus renfermé parce qu'il est face à sa feuille. Mais il y a ce côté où il s'adresse un peu déjà à des autres imaginés, et c'est vraiment quelque chose qui est incorporé et aussi pré-réflexif, parce que en fait, il s'en rend compte quand on fait l'entretien d'explicitation, au moment où on regarde la vidéo, c'est-à-dire qu'il reconnaît ce côté commun, etc. D'ailleurs, il me dit « j'ai vraiment l'air d'un autiste à bouger comme ça tout seul ». Donc il le reconnaît, il en prend conscience, donc c'est préconscient, donc c'est pas inconscient, impossible à atteindre. Mais il y a vraiment ce côté-là de l'autre est déjà dans le corps ou anticipé par l'attitude corporelle de Elka. Après, sur le mythe de l'intériorité comme privée, j'ai une réponse un peu plus nuancée, j'ai envie de dire, sur le côté construire en s'écrivant. Je pense qu'il y a effectivement... C'est tout un débat en phénoménologie, si c'est la narration qui construit le self ou s'il y a un self minimal qui est là, présent, etc. Mais je pense qu'il faut un peu trouver la réponse entre les deux. Mais donc ça c'est quelque chose pour reprendre une toute autre métaphore dont je suis en train d'accoucher en écrivant ma thèse, donc je peux pas vraiment le mettre en forme là maintenant comme ça tout de suite, mais je pense qu'il y a vraiment quand même une forme de dialectique entre la solitude et la communication, et ça de nouveau Merleau-Ponty l'a dit, qu'on peut pas choisir toujours entre solitude et communication, parce bien sûr il y a de l'autre en nous, mais en même temps on est seul à être soi dans notre chair. Enfin, personne ne partage cette chair-là, dans une perspective. Et est-ce qu'on se construit en écrivant ? Peut-être qu'on se construit, mais il y a aussi le côté où j'ai l'impression qu'il est très fort, où on se découvre aussi en écrivant. Donc quelque chose qui serait là, mais qu'on a envie d'explorer. Et ça m'a fait penser à, je vais finir là-dessus, sur un bout de Kerry James où il dit « Chut, juste un instant, laisse-moi prendre du recul pour mieux reprendre de l'élan, que je m'ouvre, que je souffle, que je me retrouve, peut-être même que je me découvre. » Voilà.
L'ambiguïté, effectivement, elle est très importante et elle est fondamentale à partir du moment où un rappeur prend un pseudonyme, il devient en quelque sorte un personnage et c'est une nouvelle naissance. Mais je crois qu'il faut maintenir l'ambiguïté, l'ambivalence, et je pense que le rap est fondamentalement... on dit souvent que le rap c'est direct, etc. Je pense que c'est fondamentalement ambivalent. Je ne sais pas trop quoi répondre à la question en réalité, mais on se demande, parfois on ne sait pas vraiment qui parle, est-ce que c'est la personne, est-ce que c'est le personnage. Pour prendre l'exemple de Booba, de Kazé, de Fuzati c'est un peu différent parce qu'il a un masque, donc il se présente comme un personnage. Mais en même temps, pour l'avoir croisé, est-ce que le personnage est si différent que la personne ? Enfin, quand il était là au séminaire, il avait son masque, alors est-ce que c'était la personne ? Est-ce que c'était le personnage ? C'est assez compliqué. Lui-même dit que son personnage, c'est lui, mais en quelque sorte décuplé, c'est lui poussé à son paroxysme. Et finalement, le pseudonyme, c'est donner un nom peut-être à une partie de soi-même. Et je rejoins l'idée de la découverte de soi-même et de l'exploration de soi-même. Booba, c'est un peu différent parce que c'est un pseudonyme, mais en même temps, c'est pas un faux nom qu'il a forgé, puisque c'est un hommage à son cousin sénégalais. Donc il y a quelque chose de réel. Et Kazé, elle nous avait expliqué, elle nous avait dit que ça venait d'une série, j'ai oublié le nom. Mais c'est le nom d'un personnage qui a une tête brûlée, et donc finalement son nom c'est déjà le nom d'un personnage, alors c'est très difficile de répondre. Et puis bon, il n'y a même pas besoin de se donner un nom ou un pseudonyme pour être un personnage, alors je crois qu'il faut maintenir l'ambivalence, mais je ne sais pas si c'est une question qu'on peut résoudre, mais c'est important de la poser.
Oui, en fait, c'est vrai que je suis plus dans le côté linguistique, mais en parlant de l'ambiguïté, je pense qu'on est dans des frontières, dans des limites un peu imprécises, avec des empiètements dans les deux niveaux. En ce qui concerne Kyrgyz, Tchad et Kilifo, je pense que la principale source d'ambiguïté, c'est un peu le va-et-vient qu'ils doivent faire entre le statut d'activiste et leur statut d'artiste. Et ce va-et-vient-là est très compliqué, même s'ils parviennent à le négocier. Et je rappelle que le parcours d'activiste ne remonte pas à Yann Amar, c'est bien avant, c'est depuis le temps des socialistes, ils se sont battus depuis les années 2000. Et toujours après ce parcours d'activiste, ils sont attendus sur le terrain artistique, et je pense qu'ils parviennent plus ou moins à bien faire les transitions à ce niveau-là.
Juste une citation que j'aime beaucoup de Caris, et petite pensée pour Youssef qui vient très souvent au séminaire mais qui n'est pas là en ce moment même. Caris a une phrase qui est très marquante et très percutante. Si j'enlève mon masque, je m'arrache la peau. Voilà. C'est à méditer.
Bonjour, merci pour tout ce que vous avez dit. Ma question, c'est pour Monsieur Thiam. En fait, je voulais parler, peut-être que c'est complètement hors sujet, je ne sais pas, mais ce que vous avez dit, ça m'a fait vachement écho, parce que je suis d'origine camerounaise, et les artistes aussi camerounais utilisent dans l'argot, mélangent le français et l'anglais, vu que le Cameroun a été colonisé par l'Angleterre, la France et l'Allemagne. Et du coup, nous, ce n'est pas la même situation, parce que dans votre pays, par exemple, c'est 90% qui parlent Wolof. Nous, il y a beaucoup de langues et c'est vraiment l'anglais et le français qu'on parle. Et du coup, concernant MHD, on dit souvent que c'est le prince de l'afro-trap, tout ça. Je voulais, du coup, pour moi, je sais que ce n'est pas le prince, je pense pas lui qui a inventé l'afro-trap. L'afrobeat, ça existait déjà. Et des artistes locaux faisaient avec des instruments en style kouré ou bien kalimba. Bon, des instruments déjà. Avec des beats, par exemple, la première fois que j'ai entendu des sons avec de l'afrobeat, c'était de Jovi, justement, qui est camerounais, ou même des Nigériens. Et du coup, je voulais savoir comment les artistes, du coup, sénégalais, parce que, voilà, vous venez du Sénégal, font, en fait, par cette sorte d'appropriation, mais par rapport à la classe, du coup, par rapport au nord-sud. Et comment ils le prennent, en fait, le fait que des artistes français, franco, sénégalais, guinéens viennent et s'approprient ce truc qu'ils ont travaillé, qu'ils ont mis du temps à... Parce que se dire qu'on peut rapper, c'est pas forcément quelque chose de... qu'on se trouve forcément légitime. Moi, en tant que femme, je trouve... Bon, c'était un peu dur. Du coup... Comment ils font pour le vivre? Je veux dire, est-ce qu'ils sont un peu révoltés par ça? Parce qu'en plus, Booba est venu, du moins Booba va au Sénégal, fait des concerts, mais dit quand même que le rap sénégalais est inexistant. Du coup, comment est-ce qu'ils font pour... comment ils le vivent, en fait? Voilà, c'est ça ma question. Merci.
Oui, en fait, c'est une question assez complexe qui touche plus à la communication de Cécile. C'est effectivement lié un peu à ce problème d'internationalisation. Alors, le hip-hop sénégalais, je pense que Nia est plus... peut parler plus de ça que moi, parce que je suis plutôt linguiste, mais le hip-hop sénégalais est un peu intransigeant. Et il y a des canons qui sont fixés. Celui qui fait du vrai rap, c'est celui qui fait du hardcore, qui parle Wolof, etc. Et quand on n'est pas dans ce cadre-là, on ne fait pas du hip-hop, on est déclassé. Et du coup, ces canaux-là constituent des facteurs de blocage contre par rapport à l'internationalisation. Et donc, les rapports sénégalais sont plus dans le local que dans le global africain. Et c'est pour revenir au propos de Booba, quand il a dit que le rap sénégalais, c'est comme le rap polonais, il n'est pas connu. Je pense que moi, j'ai une autre lecture par rapport à ça. Je pense qu'il y a des rappeurs qui sont plutôt intelligents comme Tchad, qui ont aussi une lecture autre que le tollé que ces propos-là ont suscité. Parce que
en réalité, quand Bouba est arrivé, les gens lui ont posé une question et avaient des horizons d'attente. Ils s'attendaient à des réponses évidentes, qu'il fasse l'éloge du hip-hop sénégalais, etc. Parce que c'est un Sénégalais expatrié qui retourne au Sénégal. Mais il a dit sincèrement ce qu'il pense. Effectivement, le rap sénégalais, il n'est pas international. Il n'est pas très, très connu. Et il y a même un humoriste qui s'appelle Mousse Bourrev. En français, c'est le chat impoli qui fait vraiment... Ben lui, il a dit que c'est plutôt les Polonais qui doivent se plaindre de cette comparaison. Ouais, je ne sais pas si j'ai répondu, la question est un peu complexe. C'est plus une contribution qu'une question.
Voilà. Du coup, merci à toutes et tous pour cette session.